14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Cette enquête a abouti à l'arrestation de trois hommes, Antoine Dovgiert et son beau-frère Alexis Chouvalon. Tous deux achetaient ces coupures de 100 francs fabriquées par le faussaire Czeslaw Bojarski. C'est une des plus grosses affaires de faux monnayage, elle porte sur quelques 3 millions de francs.
Bonjour, on l'appelle encore aujourd'hui le Rembrandt ou le Cézanne, comme on veut, de la fausse monnaie. Tout simplement parce que Czeslaw Bojarski reste le plus grand faussaire de tous les temps, bien au-delà d'un faux monnayeur classique, un homme qui avait élevé la contrefaçon à un niveau artistique tellement pur que même le directeur de la Banque de France était incapable de détecter ses faux billets. Pendant une quinzaine d'années, dans la France des années 50 et 60, Czeslaw Bojarski a fait ainsi tourner en bourrique les autorités bancaires et les policiers lancés à ses trousses. Il ne se doutait pas alors qu'un seul homme, un monsieur tout le monde, solitaire et austère, était derrière cette entreprise criminelle sans précédent. Bojarski, l'alchimiste de génie, avait inventé la recette parfaite permettant de transformer le papier cigarette en billets de banque. Comment Czeslaw Bojarski a-t-il pu si longtemps échapper aux enquêteurs? Quels étaient ses secrets? Et où se cachait donc son trésor? Des questions que nous allons poser bien sûr aujourd'hui à nos invités.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, le mystère Czeslaw Bojarski, début des années 50, son nom est totalement inconnu. Il va le rester longtemps. Impossible de faire le lien entre cet ingénieur d'origine polonaise et l'apparition soudaine de coupures contrefaites, de très fidèles imitations. En cet automne 1951, plusieurs chefs de service de la Banque de France sont convoqués en urgence au siège de l'institution rue de la Vrière, dans le premier arrondissement de Paris. Réunion qui fait suite à une alerte diffusée dans toutes les succursales du pays. De fausses coupures de billets de 1000 francs, ceux qu'on appelle communément les billets bleus, ont été repérées essentiellement à Paris et dans sa banlieue. La Banque de France est sur le qui-vive car ses contrefaçons sont d'excellentes factures. Indétectables au premier coup d'œil. Ils sont acceptés sans la moindre hésitation par les commerçants. La gravure est effectivement de grande qualité. Mais ce qui étonne le plus les experts, c'est la qualité du papier, son toucher, son épaisseur. Un papier filigrané plus vrai que nature qui échappe au contrôle. Par bonheur, ces billets ne sont pas très nombreux. Ils semblent être distillés au compte-gouttes sur le marché. Le graveur, très talentueux, n'a jamais été repéré auparavant. L'Office central pour la répression du faux monnayage, l'OCRFM, est alerté. Les policiers du commissaire Émile Benhamou sont pour l'instant dans le flou. Impossible de faire le lien avec une quelconque équipe. Les mois passent et les fausses coupures de 1000 francs continuent à être signalées. L'enquête policière fait du surplace. Aucune information ne remonte. Les indices sont aux abonnés absents. Seule certitude, c'est une officine structurée, bien équipée, comptant sans doute plusieurs personnes qui est derrière ce trafic discret. Impossible alors d'imaginer que c'est un homme seul, âgé d'une quarantaine d'années, un certain Czeslaw Bojarski, qui est derrière ces imitations indétectables. Cet ingénieur polonais, sorti de l'école polytechnique de Gdansk, arrivé en France au début de la guerre, fabricant de faux papiers pour la résistance et de faux visas pour les juifs, a toujours rêvé de vivre de ses inventions. Son entreprise a périclité, il a échoué, il s'est senti humilié. Pour faire bonne figure devant son épouse Suzanne et leurs deux enfants, il aurait trouvé un travail de VRP. Mais il a en fait clandestinement renoué avec ses dons de faussaire. L'histoire dira qu'il avait été repéré pour son coup de crayon juste après la guerre, par la pègre, par le gang des tractions avant. C'est avec eux qu'il aurait accompli ses premiers pas dans le monde de la fausse monnaie. 4 ans après les faux 1000, voici de faux 5000 francs. Les fameux billets baptisés Terre et Mer. Cette fois, les faussaires se sont surpassés. La gravure est digne de la Banque de France. Seule une pétale fanée de 5 mm, invisible sauf pour un expert, n'a pas été effectuée selon les règles. La qualité de l'encre est extraordinaire. Elle a été mélangée à de l'aspirine pour favoriser l'impression. Nous étions là face à une œuvre d'art, dira un responsable de la Banque de France. L'art du détail est poussé à l'extérieur. extrême avec ses coupures artificiellement vieillies pour leur donner un air ancien, des piqûres d'épingles comme si le billet avait fait partie d'une liasse, mais aussi des traces brunâtres. La police n'apprendra que bien plus tard que Bojarski faisait tourner ses billets dans un vieux tambour de machine à laver avec des éponges imprégnées de suie. 1000 francs, 5000 francs et bientôt les 100 nouveaux francs Bonaparte. Les enquêteurs n'ont qu'une certitude, c'est la même équipe qui est derrière ce travail. Le ou les faussaires, comme le pense la police, sont parfaitement hors d'atteinte. Une petite entreprise qui prospère sous la direction d'un seul homme, un père de famille ayant pignon sur rue. Mais pour combien de temps ? L'invisible Czeslaw Bojarski a longtemps habité dans un modeste pavillon de la rue des Pâquerettes, à Bobigny, la banlieue nord de Paris. Ses beaux-parents avaient mis à disposition de son couple, alors désargenté, ce logement. C'est à cette adresse, dans la plus extrême discrétion et à l'insu de son épouse, que Bojarski a fabriqué ses premiers faux billets. Il avait pour cela construit un cabanon dans un coin du jardin, acheté un tas de machines à la brocante, astucieusement bricolées, pour que le tout ressemble à une authentique imprimerie. Officiellement, il testait dans ce local ses inventions. Bojarski est un dessinateur graveur exceptionnel, mais il a surtout trouvé la recette pour fabriquer le papier parfait. Un savant mélange de papier à cigarette, de papier calque et d'eau très pure. Toutes ces années, il a travaillé en solo, écoulant sa production dans la France entière qu'il sillonne en train. Des commerçants choisis au hasard, jamais les deux fois les mêmes, jamais de banque ou de bureau de poste. Un gros billet sorti pour un petit achat, un bouquet de fleurs, un stylo et la monnaie empochée. Il peut ainsi gagner l'équivalent de 5000 euros environ par semaine. Avec femme et enfant, il a déménagé, s'est fait construire une imposante villa avenue de Sénart à Montgeron dans l'Essonne et y a installé une fabrique ultra secrète. En cette année 1963, et alors que son entreprise de faux billets n'a jamais été aussi prospère, Czeslaw Bojarski, 51 ans, commence à être fatigué par cette double vie. Ses mensonges, mais surtout ses voyages incessants qui l'obligent à traverser la France pour écouler sa production. Quand son meilleur ami et témoin de mariage, le compatriote polonais Antoine Dovgird, vient lui raconter ses ennuis financiers, il lui propose une association. Il peut lui vendre pour 62 francs 50 des billets de 100 francs, à charge pour lui de les écouler. Attention, prévient Bojarski, jamais chez le même commerçant et ne jamais présenter ses billets dans les banques ou les bureaux de poste. Dovgird accepte tout de suite le marché. Il met dans la combine un de ses proches, un homme d'origine russe, Alexis Chouvalov. Ce dernier se demande pourquoi il faut prendre autant de précautions. Ses billets sont si parfaits. Il est pressé de les écouler. Au mois de septembre, la Banque de France repère une liasse complète de billets de 100 francs. Elle a servi à l'achat de bons de trésor dans le bureau de poste de la rue Turgot, 17e arrondissement de Paris. Les faussaires viennent de commettre leur premier faux pas. La police est aux aguets. 5 octobre 1963, Paris 17e arrondissement, bureau de poste du boulevard Bessières. La caissière, Claude Vilch, vend 10 bons du trésor payés avec des faux billets de 100 francs. Elle va décrire ce client pressé au policier, 1m75, la trentaine, cheveux clairs. Deux mois plus tard, 10 décembre, celui-ci est de retour, boulevard Bessières, pour un nouvel achat de bons du trésor auprès de la même préposée, Claude Vilch. La police lui avait demandé à être vigilante au cas où cet homme reviendrait. Elle alerte un collègue qui suit le client jusqu'à sa voiture, une Renault Caravelle. L'immatriculation mène à un certain Alexis Chouvalov. Un mois de filature et de surveillance. Chouvalov est finalement arrêté à l'entrée d'un immeuble en compagnie d'un homme avec qui il a de fréquents rendez-vous, un dénommé Antoine Dovgird. Les deux amis étaient en plein échange de faux billets de 100 francs et de bons du trésor. Le flagrant délit idéal. Dovgird lâche immédiatement le morceau. Les faux billets, c'est pas lui, c'est son ami Czeslaw Bojarski qui les fabrique. Czeslaw Bojarski est désormais identifié par les policiers. Il ne croit toujours pas que cet homme soit le fabricant et le pourvoyeur de fausses monnaies. Il s'attend à tomber sur un intermédiaire, mais il se trompe. Ce 17 janvier 1964, peu après les aveux rapides d'Antoine Dovgird, les hommes du commissaire Benamou, patron de l'office qui traque la fausse monnaie, ces policiers arrivent devant le numéro 33 de l'avenue de Sénart à Montgeron, le pavillon qu'occupe depuis 4 ans la famille Bojarski. Ils n'attendent pas beaucoup pour voir émerger Czeslaw Bojarski et son épouse Suzanne. Le suspect est aussitôt interpellé. Il a été dénoncé par son ami Dovgird, mais encore faut-il prouver qu'il est le faussaire. La perquisition de la grosse villa et le ratissage du jardin alentour ne donnent rien. Aucune machine, aucun outil, aucune trace de produits chimiques ou d'encre. Les policiers demandent à Bojarski d'ouvrir un énorme coffre-fort qui trône dans une pièce. Il y a à l'intérieur des bons du trésor, des lingots d'or, des pièces d'or, mais rien qui ne fasse de lui un fabricant de faux billets, tout au plus est-il un receleur. Pendant 8 heures, les enquêteurs retournent la villa, sondent les murs et les sols en vain, jusqu'à ce que un policier renverse une tasse de café sur le linoléum. Le liquide disparaît aussitôt, aspiré dans un interstice. L'endroit cache une trappe invisible. Bojarski sait qu'il a perdu. Il actionne alors un mécanisme silencieux qui dévoile une cave secrète qui s'éclaire. Les policiers n'en reviennent pas. Dans ce mini-bunker de seulement 4 mètres carrés, il y a tout le matériel d'un atelier de fausse monnaie. Il y a aussi 30 millions de francs en coupures toutes fraîches, pas encore vieillies. On ne croit pas que Czeslaw Bojarski tout seul soit le faussaire. Il ne peut pas être le graveur de génie si longtemps recherché. Bojarski va alors se prêter volontiers au jeu pour démontrer le contraire, filmé et photographié par la police. Il montre la chaîne de fabrication d'un faux billet, du mélange pour obtenir le papier jusqu'à l'utilisation des encres. C'est son heure de gloire. Il explique qu'il ne pensait faire de mal à personne. Ses faux billets étaient plus vrais que des vrais. Sur le toit de la villa, les policiers découvriront un système de récupération des eaux de pluie les plus pures qu'ils soient. Czeslaw Bojarski espérait sans doute intimement être félicité pour son travail exemplaire mais totalement illégal. Le faussaire du siècle n'échappera donc pas à un procès devant une cour d'assises. En ce début du mois de mai 1966, plus de 2 ans après son interpellation, Czeslaw Bojarski est jugé pour son crime, contrefaçon d'argent public, peine pour laquelle il risque la perpétuité. La prison préventive a éreinté cet homme de 56 ans qui en paraît 10 de plus, visage pâle et émacié, yeux tourmentés, sa diction en mauvais français est souffreteuse. Devant la cour, il explique avoir été déçu de ne pas avoir eu de succès dans ses affaires légales, la création de brevets, d'inventions. Dès lors, j'ai su qu'il ne me serait plus possible de faire un travail honnête. Bojarski ne voulait pas tomber dans le crime crapuleux. Il estimait que fabriquer de la fausse monnaie, au début comme un jeu et un défi, n'avait rien de grave. Il a donc voulu créer l'impossible, un billet plus vrai que nature. C'était une obsession. J'étais enfermé en moi-même. J'avais l'impression que réaliser des billets impossibles à repérer ne ferait de tort à personne, répond-il au président Pérez. Le commissaire principal Benamou, cité comme témoin, est questionné sur la longueur de l'enquête. Il répond que l'émission des billets se faisait prudemment, pratiquement unité par unité. Nous avons eu très vite la certitude que le milieu des malfaiteurs était étranger à l'affaire. La qualité des billets était tout simplement exceptionnelle. La Banque de France établit le préjudice à 249 millions de francs. Elle n'avait jamais informé le public de cette circulation de faux billets, de peur de créer une panique. Les deux complices n'ont pas été poursuivis, exonérés de procès pour avoir dénoncé Bojarski. « Je regrette le tort que j'ai fait, je n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Ne m'enlevez pas cet espoir de faire payer ma dette, d'être utile et de faire le bien », dit l'accusé. Condamné à 20 ans de prison. La poussière divine de Bojarski, un Bojarski écroué à la prison de la santé. Il va rester 9 ans en détention, libéré par anticipation pour bonne conduite. Il va alors tout faire pour se fondre dans le paysage et surtout qu'on ne parle plus de lui. À sa sortie de prison, Czeslaw Bojarski a retrouvé son épouse Suzanne, qui l'aura toujours soutenu. Le couple, dépossédé de tous ses biens pour rembourser sa dette, s'installe alors dans un appartement prêté par les beaux-parents à Évry-sur-Seine. Bojarski va dès lors ne plus faire parler de lui, sauf à la faveur d'un épisode pour le moins insolite, en 1978, 3 ans après sa libération. Alors que le couple est dans le Massif central pour une randonnée pédestre, une fuite d'eau se déclare dans l'appartement inoccupé. En déplaçant une cuisinière, les pompiers trouvent dans une cache murale 10 lingots et 797 louis d'or, Bojarski avait réussi à les cacher pour ne manquer de rien. Ce dernier trésor sera saisi et servira lui aussi à rembourser la Banque de France. Czeslaw Bojarski, atteint de la maladie d'Alzheimer dans ses dernières années, s'est éteint le 2 mai 2003 à l'âge de 90 ans dans le village de l'Isère où il résidait. Les faux Bojarski s'échangent aujourd'hui à des prix faramineux lors de ventes aux enchères, comme si finalement le faussaire avait atteint son objectif, faire un billet qui soit la plus parfaite des œuvres d'art.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.